creux. Voilà. Le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui de vous parler de la crainte de l'Éternel. Parce que c'est quelque chose qui a grandement disparu des églises. Et il est temps, il est grand temps de revenir à ce que le Seigneur a dit et a préparé pour nous. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le Seigneur est à la porte, que les événements peuvent se déclencher d'un seul coup, peut-être même cette année, hein, sous la forme de la guerre de Gog, et par conséquent, nous devons avoir la paix avec le Seigneur dans nos cœurs. Le Seigneur nous protège. Amen. Alors, le sujet de la crainte de l'Éternel n'est pas un sujet facile. Ça va prendre un peu de temps, je m'en excuse. C'est pas un sujet facile et j'essaie de m'expliquer pourquoi. Parce que si vous prenez les paroles de Adam lorsqu'il s'est fait prendre et que Dieu le cherchait dans le jardin, eh bien il dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. » Bon, le mot hébreu qui est utilisé dans ce verset, c'est la racine, c'est yaré, yaré, en roulant les airs, comme dirait Raïm, hein, yaré, qui donne l'idée de peur, de crainte, de terreur, et aussi de révérence. Et c'est le même mot qui est utilisé des quantités de fois pour parler de la crainte de l'Éternel. Alors, c'est ça qui est compliqué à comprendre. Parce que d'un côté, ça parle de la peur, et en même temps, ça parle de la révérence que l'on doit à Dieu. Alors, ce matin, en y réfléchissant, là, je me suis assis pendant les chants. Et j'ai pensé à une image, je ne sais pas si elle est bonne, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Imaginons que nous soyons d'un côté d'une montagne, une grande montagne, et vous entendez une voix de quelqu'un qui parle derrière la montagne. Et cette voix, c'est Dieu. Et vous êtes loin de Dieu, parce qu'il y a la montagne entre deux. Et vous avez peur, parce que vous entendez une voix, vous ne savez pas qui, vous ne savez pas comment, et vous avez peur. Qu'est-ce que c'est la peur? Quelquefois, moi je pensais que la peur était un péché. Eh ben non. J'ai appris hier, parce qu'on a eu un enseignement hier après-midi, que la peur, c'est une réponse émotionnel à un danger. C'est Dieu qui a mis en nous cette réponse. Et le danger, il vient comment? Ben, le danger, il vient parce que, soit parce que réellement, ou soit parce qu'on imagine, qu'on n'a pas de protection. Et quand on n'a pas de protection, on a peur. Et finalement, pour que cette peur disparaisse, il faut que la protection vienne. Et pour que la protection vienne, eh bien, vous voyez que c'est une question de relation avec Dieu. Alors, maintenant, reprenons l'image de la montagne. Cette montagne, c'est Yahré. Yaré, c'est la peur d'un côté et de l'autre côté, c'est la crainte. Deux versants. Alors vous allez me dire, ça se ressemble. Ben oui, c'est la même montagne, c'est le même mot. Alors, parce que vous avez peur, vous allez chercher une protection. Et là, Yeshua, le Seigneur, nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et en même temps, nous savons que Yeshua, c'est la parole incarnée. Donc, je prends la parole, et dans la parole, je trouve le chemin qui me fait monter sur le versant la peur. Donc, je grimpe le long de cette montagne, parce que j'ai peur. Je veux aller voir qui est derrière. Et puis, si je suis correctement ce chemin, j'arrive au sommet. Et là, c'est tellement loin que je ne vois rien, mais je me dis, il est là derrière, il y a quelque chose. Et je commence à descendre. Et cette peur, plus j'approche, plus je vais m'approcher de lui, et plus je vais le voir, et plus cette peur se transforme en respect. Et quand j'arrive en bas, dans son jardin, alors j'ai du respect pour lui. Et vous voyez, c'est le même mot, simplement j'ai franchi la montagne grâce au chemin qui est dans la parole de Dieu. C'est ça que je veux expliquer. Hein ? Alors cette image-là, elle m'est venue ce matin, mais c'est pas simple à expliquer ces choses-là. Mais vous voyez comment on transforme la peur en respect pour Dieu. Et à ce moment-là, ça n'est plus de la peur, ça devient de l'amour. Vous voyez ? Parce que quand on rentre dans son jardin, et c'est là où on se dit, mais quand je suis proche de lui, je suis couvert par son sang. Et je suis protégé, et donc je n'ai rien à craindre. C'est lui qui tient ma vie dans ses mains. Vous voyez ? Mais il y a cette montagne à franchir. Et ce sont des étapes dans la vie. Alors, il y a plein de versets qui nous parlent de la crainte de l'Éternel. Donc la crainte de l'Éternel, oui, ça peut commencer par la peur et se transformer en respect. Vous voyez ? Mais c'est une évolution. C'est une évolution. Et effectivement, pour Adam, ça a commencé par de la peur, qui est donc une réponse émotionnelle, et c'est une réponse qui est normale. Heureusement que Dieu nous a donné ces réponses émotionnelles. C'est un petit peu comme quand il y a du feu, vous savez. Moi, quand j'étais petit, j'ai fait un truc pas terrible, hein. Il y avait le feu à la maison, vous savez, les grosses cuisinières là, au charbon là qu'on avait. Hein, et bien, figurez-vous que moi, j'étais mettre mes mains dessus. Pshhh, ça a fait. Et pendant des semaines, j'ai eu le droit à des pansements. Hein, mais après, j'ai pu recommencer. Parce que j'avais compris. Et c'est ça, l'objet de la peur qui se transforme en révérence. Heureusement que maintenant j'ai peur de mettre mes mains dans le feu. Ben oui, parce que j'ai compris. Alors, merci Seigneur pour cette peur qui se transforme en révérence. Et vous voyez que c'est un chemin, cette montagne à franchir, parce que Dieu est de l'autre côté. C'est pas, finalement, c'est écrit tout ça. Peut-être pas sous cette forme-là, mais regardez, dans Romains 3, du verset 10 à 18, je vais vous le lire. Paul dit, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction, le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » Le chemin qui nous fait passer de l'autre côté de la montagne. Ils ne connaissent pas. Et ce Dieu, ce grand Dieu que nous connaissons en partie, ce grand Dieu, il n'est pas connu par les hommes. C'est quand même assez incroyable de voir que tous les hommes, tous, ont besoin de croire en quelque chose ou en quelqu'un. Pourquoi ? Ben tout simplement parce que tout le monde a peur. Tout le monde. Et tout le monde se raccroche à quelque chose. Alors que ce soit une religion, que ce soit la science, que ce soit n'importe quoi, tout le monde s'accroche à quelque chose et camoufle sa peur sous des tas d'activités, enfin toutes sortes. Chacun puise dans le supermarché de Satan ce qui lui convient le mieux. C'est comme ça ce monde. Et ce qui pourrait arriver de pire à un homme ou à une femme, ce serait de perdre la crainte de l'Éternel. Parce qu'alors, on s'arrêterait de monter la montagne. Dans Ésaïe 29, au verset 13, on lit, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Autrement dit, la crainte, ça n'est pas du bavardage. C'est quelque chose qui se vit dans les tripes. C'est quelque chose de réel. C'est quelque chose, c'est vraiment une émotion. Et il ne faut pas condamner quelqu'un qui a cette émotion. Il est en chemin. Il est en chemin. Ce qu'il faut, c'est voir s'il continue à monter le chemin pour passer de l'autre côté et que ça se transforme en amour et en respect et en paix. En paix, parce que quand on arrive dans la communion de Dieu, il n'y a plus de crainte. L'amour bannit la crainte. Vous voyez le chemin? Et ça, c'est tellement important. Conduire ceux qui aiment Dieu dans la paix. C'est un chemin, ça ne se fait pas en une seconde. Alors, dans l'Exode, les hommes ont imaginé le veau d'or. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, Moïse ne descendait plus de la montagne. Ils ont pris peur parce que c'était le seul qui était capable de parler avec Dieu. Donc eux ne pouvaient pas parler avec Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un Dieu comme ils l'imaginaient, mais ils ont dit c'est Dieu, c'est lui qui nous a délivrés. Mais ils se sont imaginés un Dieu à leur mesure. Et ça veut dire qu'ils ont ramené la grandeur de Dieu à leur niveau. Ils n'ont pas nié que c'était Dieu qui les délivrait. Et vous voyez que la parole de Dieu, elle est souvent filtrée à travers nos raisonnements, à travers des choses humaines. On adapte la parole de Dieu, donc Dieu, aux situations qui nous concernent et on la ramène à notre niveau. Et en faisant cela, nous abaissons Dieu. On dit quelquefois, ça nous amène là dans des raisonnements qui sont un peu tordus, on dit quelquefois que Dieu ne pense pas et ne fait pas ce qu'il dit. Eh oui, ça arrive de dire ça. Seigneur, ça fait des années que je te prie. Il est écrit dans ta parole que tu vas répondre si je prie et tu réponds pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Tu mens? Et les peuples se comportent souvent, et les chrétiens, nous-mêmes, souvent, on se comporte comme des enfants gâtés. On pense que on a droit au bonheur. Alors, Seigneur, pourquoi j'ai tant de misère? Quand on ne reçoit pas ce qu'on veut, on tape du pied. Il y a une façon de taper du pied, une façon chrétienne. C'est de jeûner quand Dieu ne l'a pas demandé. Vous n'avez jamais remarqué ça? Il y a des églises qui jeûnent, moi j'en ai connu, hein. Ça jeûne, ça jeûne, ça jeûne, et jamais rien qui change. Pourquoi ils jeûnent? Est-ce que Dieu leur a demandé? Non. Alors, John Bevere, que j'aime beaucoup, vous savez, a écrit un livre qui s'appelle « La crainte de l'Éternel ». Je me suis inspiré de son livre pour faire cet enseignement. Et en parlant avec le Seigneur lui a dit « Regarde, regarde dans l'Écriture ». Il y a un processus qui revient toujours. C'est trois choses qui se suivent. Trois choses. La première, c'est la mise en ordre. La deuxième, c'est la gloire. Et le troisième, c'est le jugement. Trois choses qui se suivent. Toujours comme ça. Et je voudrais vous expliquer, par des exemples de la Bible, comment ça se produit. Parce que beaucoup d'églises se lamentent parce qu'elles n'ont pas de réponse positive à leurs prières. Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de réconciliation. Tout ça, ça devient de plus en plus rare. Bref, la gloire de Dieu n'y est pas. Vous n'avez pas remarqué ça ? Moi, je le vois hein, dans les églises. C'est pas la gloire, c'est la cata. Bien souvent. Il faut comprendre, nous devons comprendre, qu'avant que Dieu manifeste sa gloire, il faut que l'ordre divin soit rétabli. Dieu ne rentrera pas dans une personne, dans une maison, etc., si l'ordre n'est pas rétabli. Je l'ai déjà dit, mais quand on dit « Seigneur, prends ma vie, remplis-moi dans ton esprit », croyez-vous que l'esprit va rentrer dans quelqu'un qui ne prend pas l'engagement d'être propre? Vous imaginez ça? C'est pas possible. Donc, il faut d'abord rétablir l'ordre. Et puis, la gloire vient. Et ensuite, le jugement, si c'est nécessaire. Alors, prenons un premier exemple. Quand Dieu a créé le monde, alors ce que j'ai expliqué hier, je ne sais pas si je l'ai dit ici déjà, je ne sais plus, parce que je radote un peu. Mais Dieu a tout créé le premier jour. Tout. Hein? Je l'ai dit ici, ça? Je ne sais plus. Vous allez me dire, la création, c'est 7 jours. Oui, non, non. Dieu a tout créé le premier jour. Le mot « créer », on ne le retrouve que pour le premier jour. D'accord? Et puis après, il a façonné. À partir de ce qu'il avait créé. Il a transformé après. Alors, on retrouve le mot créé ailleurs dans la Bible, et je vous le signale en passant, on le retrouve dans le psaume 51, qui est le psaume de la repentance de David, où David dit « Crée en moi un cœur pur ». D'accord ? Donc, et ça, c'est important aussi de le comprendre, parce que ça ne veut pas dire « Change mon cœur hein ». C'est « Crée en moi un autre cœur ». C'est une nouvelle création. C'est pas, c'est un, c'est un, faut aller voir dans l'hébreu ça, hein. C'est intéressant. Bon, alors, revenons.
Il faut préciser que lorsqu'il a été créé dans les autres jours, c'est pas le même mot.
Oui, dans les autres jours, le deuxième jusqu'au septième, c'est plus créé, c'est d'autres mots hébreux. Hein. Donc, tout est créé le premier jour. Alors, seulement, voilà, le monde était en chaos. C'était, la Bible dit, et on ne sait pas ce que ça veut dire en fait, c'est tohu bohu. Hein? Tohu bohu. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Bref, c'est le chaos. C'est le désordre. Donc, pour que la gloire de Dieu arrive, il faut que Dieu mette l'ordre. D'accord? Alors, il met 6 jours pour établir l'ordre. Et vous savez que le dernier façonnage, c'est le façonnage de l'homme et de la femme. Voilà. Donc, voilà, c'est arrivé comme ça. Et il n'y avait aucune misère. C'était Gan Eden, le paradis terrestre, la paix, la joie. Hein. Et puis, Adam et Ève étaient en relation avec Dieu. C'était parfait. C'était la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui arrive ? Arrive le péché. C'est Satan qui vient tenter Ève. Enfin, vous connaissez l'histoire. Et qu'est-ce qui tombe ? Poum ! Le jugement. Donc, vous voyez le premier processus, là ? C'est comme ça. Et on va retrouver ça tout le temps dans la parole de Dieu. Prenons par exemple l'histoire du tabernacle dans le désert. Le tabernacle, c'était une tente destinée à recevoir la gloire de Dieu au milieu des Hébreux, dans le désert. Et l'objectif était que, grâce à cette gloire, le peuple apprenne à connaître Dieu. Hein, c'est ça l'objectif. Alors, et Exode 29, 46 dit « Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » D'accord ? Alors, ce tabernacle, il n'a pas été fait n'importe comment. Moïse était monté sur la montagne pendant 40 jours et Dieu lui a montré le tabernacle spirituel qui était dans les cieux, celui dans lequel Yeshua ira plus tard avec son sang. Donc il a bien observé, et Dieu lui a dit, regarde bien ce tabernacle dans les cieux, parce que tu vas en faire un dans le désert exactement pareil. C'est pas n'importe comment. Il fallait que Moïse ait une bonne mémoire, hein. Parce qu'il fallait regarder chaque épingle, chaque clou, etc., etc. Tout dans le détail. Et Moïse, c'est la parole de Dieu, dans Hébreux 8, 5, il est dit, « Selon que Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui dit-il de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Alors, Moïse va trouver des hommes qui sont capables de faire exactement ce que Dieu a demandé. Rien n'est laissé au hasard. Dans Exode 39, verset 42 et un petit peu plus loin, « Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. » Moïse examina tout le travail. Et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi, Moïse les bénit. C'est merveilleux ça. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le premier jour du mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. » Et vous voyez, quand tout a été achevé, dans Exode 40, versets 33 à 35, on peut lire « Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La gloire. Donc vous savez que c'était une nuée, une lumière. Hein? C'était quelque chose d'insoutenable. Et d'ailleurs, Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Donc, tout a été mis en ordre. La gloire de l'Éternel vient. Et vous savez qu'ensuite, le grand sacrificateur, c'était Aaron. Et Aaron avait 4 fils qui étaient aussi des sacrificateurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans le désert, le jugement n'a pas tardé. Nada et Abihu, les deux des fils d'Aaron, ont amené du feu étranger sur l'autel. Du feu étranger sur l'autel. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est dangereux de vouloir décider de la volonté de Dieu à sa place. C'est dangereux de faire ce que Dieu n'a pas demandé. Vous allez me dire, mais comment on peut le savoir? Ben, on peut le savoir en s'approchant de Dieu. Tout simplement. Les hommes sont quelquefois fougueux, ils font des activités qu'on ne leur a pas demandé. On est des activistes. Moi le premier, j'étais un activiste. On est des activistes et on pense bien faire. Mais Dieu n'a pas demandé. Et en faisant ça, on amène du feu étranger. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ce feu est sorti sur eux et les a tués. Si dans nos vies chrétiennes, nous faisons des activités qui ne nous sont pas demandées, nous allons avoir des problèmes, mais de gros problèmes qui peuvent même nous détruire. Et ça, nous devons le comprendre. Ça fait partie de la crainte de l'Éternel. Ça fait partie de la crainte de l'Éternel. À nous d'apprendre à recevoir de Dieu ce qu'il veut. Voyez, moi et Véronique, on est souvent à droite, à gauche. J'ai un principe depuis des années et des années et des années. Ce principe, c'est: Seigneur, je ne demande jamais à personne de m'inviter. Seigneur, c'est toi qui dois le faire. Si on ne m'invite pas, on ne m'invite pas. Mais si on m'invite, c'est toi, Seigneur. Voilà. À partir de là, je sais que c'est lui qui m'envoie. Et pour moi, c'est très important parce que ça fortifie ma foi. Je sais, Seigneur, moi, je n'ai rien demandé. Je ne suis rien. Je n'ai aucun titre. Je ne suis ni pasteur, ni rien. On ne peut rien me retirer. Je ne suis rien. Et le résultat de ça, c'est que je suis libre et que je peux dire ce que Dieu veut que je dise. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on me fasse? Rien. Rien du tout. Oh, on nous a déjà mis dehors. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ça, c'est un problème personnel. On est mis dehors, on met un petit bout de temps à s'en remettre et puis on continue son chemin. Mais ça n'a aucune importance. On a dit ce qu'on avait à dire de la part de Dieu. Mais le principe, je ne demande rien. Et hier, on a rencontré un vieil ami à nous qui nous connaissait déjà au moment de notre baptême, ça fait 42 ans, qui est pasteur, qui est du côté de la Tour du Pin là-bas. Puis hier, il était dans la région du Nord, on l'a rencontré. Ça fait des années qu'on ne l'a pas vu. Et bien lui, c'est pareil, il ne demande jamais rien à personne. Seulement voilà, il a un ministère tellement proche de Dieu qu'on le demande tout partout. Il a 78 ans. Et il dit, moi, on peut me faire n'importe quoi, j'ai rien à perdre. Je pars de la part de Dieu, c'est tout. Et bien ça c'est beau, vous savez. Ça c'est beau. Parce que tous ces hommes de Dieu, soi-disant, ils ont beaucoup de choses à perdre. Alors ils ne parlent pas de la part de Dieu. Alors maintenant, prenons encore un exemple. Le temple de Salomon. Il a été préparé par David, d'abord, qui a préparé tous les éléments. Hein. Mais Dieu lui a dit, c'est pas toi hein, qui feras le temple parce que tu as versé trop de sang. Donc c'est ton fils, c'est Salomon, qui va construire le temple. Alors il fait tout selon les plans que David avait prévus, parce que David avait reçu les plans de Dieu. Il a tout fait. Et puis voilà, quand tout a été prêt, il est écrit dans 2 Chroniques 5, versets 13 et 14, « Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours, en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. » Formidable. Tout a été mis en ordre, et voilà, paf, Dieu arrive. Mais si Dieu arrive, il ne faut pas souiller la maison de Dieu. Et c'est là qu'intervient aussi la crainte de l'Éternel. Si tu souilles la maison de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Ça va prendre du temps, vous savez, parce que Dieu est patient. Mais dans 2 Chroniques 36, versets 14 à 17, on lit « Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon les abominations des nations. » Et un petit peu plus loin on lit, « Jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. » Pouf! Et là, que se passe-t-il? Eh bien, c'est terrible parce que ça c'est écrit dans un des chapitres du livre d'Ézéchiel, c'est Dieu qui sort du temple. Il s'arrête en haut du mont des Oliviers, il se retourne, il regarde le temple en disant, s'il pouvait changer, s'il pouvait revenir. Et comme ces sacrificateurs continuent le désordre, Il s'en va. C'est-à-dire que le temple est vidé de la personne de Dieu, et ce temple, s'il n'y a plus Dieu dedans, il va être détruit. Vous vous rendez compte? Et c'est ce qui est arrivé avec les armées de Babylone. Dieu n'y était plus. Maintenant, prenons encore un autre exemple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. On vient de parler du temple. Trois fois dans les Écritures, Paul nous dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes. Comment ça s'est produit, ça? Comment on a pu arriver à ce que nous soyons, vous et moi, le temple du Saint-Esprit? Eh bien, il y a d'abord eu le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est arrivé avant la gloire. Il devait remettre de l'ordre, c'est-à-dire abaisser l'orgueil, abaisser l'irrévérence, Jean-Baptiste a donc préparé le chemin du Seigneur. Et c'était écrit depuis longtemps dans Ésaïe 40, versets 3 à 5, on peut lire, « Une voix crie, préparez le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne, toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. » Donc vous voyez, Jean-Baptiste, il est venu pour rétablir l'ordre avant que la gloire de l'Éternel soit révélée. Jean-Baptiste appelait à un changement complet, radical des cœurs. C'est lui qui disait race de vipère, etc. Entre parenthèses, s'il y avait un Jean-Baptiste au milieu des églises, il se ferait mettre dehors comme maintenant. Hein? Allez donc prêcher aux chrétiens, race de vipère, vous ne voyez pas tout ce que vous faites dans vos vies? Le pasteur dirait, t'es pas plein d'amour toi, hein? Va-t'en, hein? Je ne veux plus te voir. Hein? Ah oui? Et comment voulez-vous rétablir l'ordre dans l'église? Race de vipère, regardez vos vies. Alors, les pécheurs de l'époque de Jésus, pour beaucoup d'entre eux, ont reçu le message de Jean-Baptiste. Par exemple, dans Luc 15, verset 1, je peux lire « Tous les publicains, les gens de mauvaise vie, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. » C'était les plus grands pécheurs. Quoique les pharisiens, ils tenaient pas mal aussi. Alors, ensuite, on connaît l'histoire. Jésus a été crucifié pour nous. Et puis, vous savez, quand il a été ressuscité, le premier jour de la semaine, Marie est allée au tombeau. Et Jésus lui a dit, ne me touche pas. Alors qu'un petit peu plus tard, il dira à Thomas, tu peux mettre ta main, hein? Donc là, pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit, je ne suis pas encore monté. Donc, à un moment donné, Jésus est monté dans le tabernacle du ciel, il a présenté son sang devant le Père, et puis il est redescendu. Et là, il a pu dire à Thomas, maintenant tu peux toucher. Et donc, comme il est rentré dans le tabernacle des cieux, le rideau s'est déchiré dans le temple et la porte a été ouverte. Et 50 jours plus tard, les 120 qui étaient dans la chambre haute ont reçu la gloire de Dieu. Ils ont reçu le Saint-Esprit en eux. Il y a eu des tonnerres, il y a eu des flammes. Mais ils ont reçu le Saint-Esprit, la gloire de Dieu en eux. Et ces 120 personnes ont pu, vous savez, ils n'avaient pas de programme, ces gens-là. Ça faisait 10 jours que Jésus était remonté au ciel. Pendant 10 jours, ils ont attendu dans la chambre haute. Ils n'avaient pas de programme. Alors qu'il y en avait 500 qui avaient vu Jésus ressuscité, là il n'y en avait plus que 120 qui étaient morts à eux-mêmes. Moi Seigneur, je n'ai pas de programme, c'est toi qui fais mon programme. Je ne sais pas ce qui m'arrivera demain, je ne sais pas où j'irai, Seigneur c'est toi qui fais mon programme. Nous maintenant, Véronique et moi, on est sortis des programmes des églises. On n'en veut plus de programme. C'est fini. Merci Seigneur parce qu'on a fini par gagner notre liberté. Je dirais maintenant qu'on nous fiche la paix. Hein? On nous fiche la paix. On n'a pas de programme. C'est Dieu qui fait le programme. Eh bien, je peux vous dire, j'ai jamais été aussi heureux. Et notre ami Robert, hier soir, pareil, il me dit, j'ai jamais été aussi heureux. Ben oui, mais t'as pas de programme, ben laisse faire le programme par le Seigneur. Ça, c'est vraiment la paix. Maintenant, le Seigneur nous dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit, faites des convertis. Il a dit, faites des disciples, c'est-à-dire des gens, ce que je disais hier, quelle est la définition de l'amour? Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Oui. C'est important. Alors, il y avait beaucoup de miracles qui se sont produits quand cette gloire est arrivée. Dans Actes 2, 43, il est dit « La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Il nous est même expliqué que simplement l'ombre de Pierre guérissait les malades. Vous imaginez ça, la gloire? Vous avez déjà vu ça dans une église, vous? On peut se poser la question quand même, parce que le Seigneur, c'est toujours le même, il n'a pas changé depuis 2000 ans. Et on voit, après la Pentecôte, que tout était en ordre selon Dieu. L'Église prospérait. En plus, ça allait très vite. Vous savez pourquoi ça allait très vite? Parce que les Juifs de l'époque, et notamment les pères de famille, connaissaient très bien les Écritures. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Ce qui fait que ça ralentit beaucoup actuellement. Mais les Juifs de l'époque connaissaient très bien les Écritures, ce qui fait que la parole de Dieu, elle s'étendait à toute allure. Et puis voilà, dans Actes 4, au verset 36 et 37, apparaît un homme qui s'appelle Joseph. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà un bonhomme qui vient de Chypre. Oh, on est à Jérusalem là, hein? Il arrive de Chypre avec une grosse somme d'argent. Formidable, hein? Et puis, à côté de ça, vous avez Ananias et Saphira, qui certainement, eux, avaient une belle place, étaient considérés, parce que eux aussi, ils apportaient de l'argent. Et quand ils ont vu Joseph, ils ont peut-être été jaloux. Ça arrive hein, dans l'église qu'on soit jaloux. Hein. Ils ont peut-être été jaloux de l'intérêt qu'on portait à Joseph. Alors ils ont vendu un terrain aussi. Mais regardez un petit peu, je ne sais pas, moi j'imagine, on vend un terrain, on récupère 30 000 euros. 30 000 euros. On en donne 25 000 en disant on a tout donné. C'est beaucoup 25 000 euros, non? C'est un beau cadeau hein, pour le Seigneur. Mais il y a un mensonge derrière. Et tout le monde connaît l'histoire d'Ananias et Saphira. Et tout le monde sait qu'ils ont été foudroyés, tous les deux, à 3 heures d'écart. Parce que tous les deux ont menti au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était là. Et quand la gloire de Dieu est là, le moindre péché fait tomber le jugement. Alors vous allez me dire, comment ça se fait que ça n'arrive plus? Parce que moi, je vais vous dire, des Ananias et des Saphira, il y en a des pelles. Il y en a des quantités. dans les églises. Des quantités. Comment ça se fait qu'ils ne sont plus frappés comme Ananias et Saphira? Seigneur, comment ça se fait? Mais tout simplement parce que la gloire de Dieu n'y est plus. Cherchez la gloire de Dieu dans les églises. Elle n'y est pas. Pourquoi elle n'y est pas? Parce que l'ordre n'y est pas. Tout simplement. C'est le processus normal. Et quand Ananias et Saphira ont été foudroyés, ils sont morts tous les deux. Paf. Vous imaginez? Il nous est dit, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Et je vais même vous dire, ils devaient en avoir une sacrée trouille. Parce que leur péché a été révélé, ils se sont dit, mince, ils ont amené 25 000 euros. Et parce qu'ils ont gardé 5 000 pour eux, qui en soi finalement, c'est pas si grave que ça. Oui, mais ils ont menti au Saint-Esprit, ils sont morts. Oh là. Alors là, vous commencez à réviser votre propre comportement. Et vous commencez à vous dire, « Attends Seigneur, moi dans ma vie, est-ce que je suis tout à fait clair là ?» Dans 1 Pierre 1, verset 15 à 17, il est dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Et vous invoquerez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Le pèlerinage, c'est la montagne dont je parlais tout à l'heure, avec le chemin qui est le chemin de la parole de Dieu. Je suis le chemin. Et le mot qui est utilisé dans « conduisez-vous avec crainte », c'est le mot « phobos » en grec qui veut dire « crainte, peur, terreur ». C'est la montagne avec ses deux versants. Et dans le psaume 25 au verset 14, on peut lire « l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance » leur donne instruction. Sa parole que l'on entend derrière la montagne, sa parole, elle nous attire. Elle nous attire et on chemine. Et on chemine et à un moment donné, la peur se transforme en amitié. Et je n'ai plus peur et je m'approche de plus en plus. Et je n'ai pas peur parce que je sais que tu as pris ma vie dans tes mains et que tu me protégeras et que tout ce qui va m'arriver dans ma vie, c'est toi qui l'auras choisi. C'est tellement important de comprendre ça. Chaque moment, chaque fait dans notre vie, c'est toi, Seigneur, parce que je t'ai donné ma vie. Qu'est-ce que c'est important, ça? Et hier, on nous expliquait par exemple que des gens sont allés voir un rebouteux. Qu'est-ce qu'on fait quand on va voir un rebouteux? Eh bien, on confie son corps à un étranger. C'est pas à Dieu qu'on l'a confié. Et à chaque fois qu'on donne une partie à quelqu'un ou qu'on garde une partie, c'est pas à Dieu qu'on a donné. Mais forcément, il y a de la peur. Parce qu'on n'a pas la couverture. Et rebouté, il y en a des kilos. Alors, on va continuer. Il faut toujours se rappeler que Dieu est amour et Dieu est un feu dévorant. Les deux. 1 Jean 4, 8 dit « Celui qui m'aime, qui ne m'aime pas, celui qui ne m'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors, on démarre notre chemin du côté de la montagne où on n'a pas forcément de l'amour pour Dieu. Ça peut démarrer par de la peur, par de la crainte. Mais je vous dis, quand vous passez le sommet, que vous redescendez, ça se transforme en amour. Parce que vous le connaissez de mieux en mieux. Et vous vous rendez compte qu'il prend soin de vous. Et que même avant que vous soyez converti, il vous connaissait et qu'il avait déjà préparé un chemin pour vous. Même avant. Il a préparé un chemin de longue date pour chacun. Et il nous dit maintenant, tu vas rentrer dans le chemin que j'ai préparé pour toi. La crainte, c'est le début de la sagesse, effectivement. Écoutez ces quelques versets. Proverbe 16, 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. C'est exactement la même chose que se détourner du feu. Hein. Alors, la gloire de Dieu se manifeste. Dans Actes 5, versets 13 à 16, on peut lire. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits, sur des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines, à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. La pureté, la propreté, quand elle y est. Mais je vous assure, les gens viennent tout seuls. Parce que Dieu dit, voilà, c'est un endroit où je peux me tenir. Donc je vais faire, c'est Dieu qui fait venir, c'est pas nous. On ne fait pas du marketing pour faire venir les gens. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait venir. Et si Dieu dit, voilà, dans cette maison c'est propre, eh bien je vais faire venir quelqu'un qui va pouvoir être enseigné, qui va pouvoir recevoir. C'est ça l'Église. Alors, comment se fait-il que les Ananias et Saphira modernes ne sont pas foudroyés? Il y en a qui sont foudroyés. On en connaît. Mais pas tous. Regardez l'histoire du sacrificateur Élie, le vieux sacrificateur qui était devenu aveugle. Il était gros, il était assis sur une chaise, il était assis au bord du temple. 1 Samuel 3, versets 1 à 3 dit « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir. Il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Élie, ce sacrificateur, était un conducteur aveugle au sens réel comme au sens figuré. Il avait mal élevé ses enfants. Quand ses enfants faisaient des abominations, il ne les reprenait pas. L'ordre n'y était pas. L'ordre n'y était pas. Et il commettait des horreurs, mais alors des horreurs de chez horreurs. Ils n'ont pas été frappés tout de suite. Et même dans l'Église, vous savez, Il y a des péchés évidents de certaines personnes, mais pour d'autres, ils sont bien cachés. C'est pas moi qui le dis. 1 Timothée 5, 24. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Le Saint-Esprit, lui, par contre, il les connaît. Il les connaît, les péchés de chacun. Ces péchés que on ne veut pas amener devant le Seigneur. Ok. On ne veut pas les amener, on ne les amène pas. On est libre. Le Seigneur est un gentleman. Il ne force personne. Mais il est écrit ceci dans l'Ecclésiaste, chapitre 8, versets 11 à 13. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Et voilà, ça veut dire que Dieu patiente. Pourquoi Dieu patiente? Parce que la gloire de Dieu n'y est pas. Il reste juste une petite lueur. Une petite lueur, parce que malgré tout, on parle quand même un peu des Écritures dans les églises. Il reste une petite lueur. Alors les ténèbres dominent et les hommes ne sont plus confrontés à la lumière. Et c'est comme ça qu'ils ne s'aperçoivent même pas que ce qu'ils font est en horreur à Dieu. Parce que la lumière est tellement faible qu'ils ne s'en rendent pas compte. Alors quand c'est comme ça, Dieu patiente. Dieu patiente, et c'est pour ça que les Ananias et Saphira modernes ne sont pas frappés sur pied. Ils ne se sont même pas rendus compte que ce qu'ils font, c'est horrible. Tellement la lumière est pâle. Et c'est à nous, frères et sœurs, à apporter la lumière. N'ayez pas peur d'apporter la lumière. N'ayez pas peur d'être jeté par les autres, même par d'autres chrétiens. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Qui va vous juger? Les autres chrétiens ou Dieu? Moi, je suis très content de m'appeler Daniel. Ça veut dire Dieu est mon juge. Et qu'un homme me juge, qu'est-ce que ça peut me faire? De toute façon, lui et moi, on se retrouvera devant le même juge. Chacun son tour. Et il nous est dit dans Jacques 5, au verset 9, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. » Le juge est à la porte. C'est ce qui est terrible, c'est ce que les fils d'Élie se sentaient à l'aise dans la corruption. Et nombre de chrétiens se sentent à l'aise dans l'horreur. Il y a beaucoup, mais il y a des quantités de chrétiens qui regardent des films porno, qui, enfin, je ne vais pas tout dévoiler comme ça, mais il y en a des quantités, même des femmes. Ben oui, ça existe. Puis après, ils viennent à l'église et ils louent le Seigneur. Je vais vous dire, à quoi ça sert de reconnaître Jésus-Christ quand il n'y a aucun changement de cœur et par conséquent aucun changement de vie? À quoi ça sert? Quand je dis, on parle avec Véronique de temps en temps et puis on dit, mais vraiment, là-haut, dans le royaume, il doit y avoir une salle spéciale pour les mains. Toutes les mains qui sont sauvées. Levez la main, ceux qui aiment le Seigneur. Alors les mains sont sauvées, mais après le reste non, parce que ça ne change pas. Mais oui, à quoi ça sert de reconnaître Jésus s'il n'y a rien qui change dans ta vie, s'il n'est pas ton roi? Ben, je suis désolé, mais attention, la fin, elle arrive alors. Attention, la fin, elle arrive. Et à la fin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on peut aller sur Internet et on choisit le message qu'on veut. 2 Timothée 4:3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. On est en plein dedans. Et alors, qui va les arrêter? S'ils ne veulent pas changer, personne, laissez-les aller. Tant pis. Je vais même vous dire un truc. À la fin des temps, on nous parle des 10 vierges. Il y en a 5 qui n'ont pas d'huile. Peut-être qu'il y a une fuite, hein, c'est possible. Mais quand elles demandent aux autres, est-ce que vous pouvez nous donner de l'huile? Elles répondent non. Je vais vous dire, à la fin des temps, ça va être chacun pour soi, devant le Seigneur. Eh oui, c'est comme ça. L'Église ne peut pas venir en aide à la société parce qu'elle est atteinte d'une grave maladie. Elle n'a pas la crainte de l'Éternel. Elle a perdu la crainte de l'Éternel. On banalise tout. Les choses de Dieu sont sérieuses. Dans Jérémie 5, versets 30 et 31, des choses horribles, abominables se font dans le pays. Quand on parle, Véronique et moi, de Dunkerque, on a connu Dunkerque il y a 40 ans. Et quand on parle de Dunkerque, à chaque fois je lui dis, il y a eu une bombe atomique sur Dunkerque. Une bombe atomique spirituelle. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé, c'est affreux. Les prophètes prophétisent avec fausseté, on en connaît. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite, on en connaît. Et mon peuple prend plaisir à cela. Et il pose une question. Que ferez-vous à la fin? Ah, et la fin, elle approche. Il y a un juif de 15 ans, à Soukhot, donc c'était au mois d'octobre, il est mort. Et puis, je ne sais plus si c'est 40 minutes plus tard, il est revenu à la vie. Et il a raconté ce qu'il a vu. Alors je ne vais pas vous décrire, et puis c'est très juif ce qu'il a vu. Donc c'est très spécial. Il faut beaucoup de prudence, etc. Mais il a dit, voilà, j'ai vu l'avenir, l'avenir proche. Et la guerre de Gog. Il a dit, Gog, c'est Obama. Ça veut dire qu'il reste un an. Un an de la présidence d'Obama. Et d'après ce que lui a vu, alors est-ce que c'est la vérité, est-ce que c'est un mensonge, est-ce que ce sont des anges qui lui ont donné de fausses informations? Mais d'ici un an, il y aura une guerre mondiale, d'après ce qu'il a vu, et qu'il y aura très peu de survivants, et ça ne va pas durer longtemps. Que ferez-vous à la fin? Que ferez-vous à la fin? On va encore jouer du pipeau? On va encore s'amuser? On va encore faire clap, clap, clap dans nos mains et puis faire n'importe quoi de nos vies? Elle est où la crainte de l'Éternel? Je vais vous dire, si nous craignons les hommes, nous nous soumettrons aux hommes. Si nous craignons Dieu, nous nous soumettrons à Dieu. De toute façon, mourir, il faut mourir. Alors, c'est lui qui va décider. Et moi, je préfère arriver devant lui avec une vie propre. Et dire, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Et le Seigneur va, je l'espère, avant son retour, parce que son retour, ça va être la gloire, le retour de la gloire. Je l'espère, va envoyer un temps et va envoyer des hommes et des femmes qui auront le ministère d'Élie pour rétablir l'ordre. Et ce sont des hommes, je vais vous dire, des hommes et des femmes qu'on ne pourra pas faire plier. Le prophète Élie. L'esprit d'Élie, le prophète d'Élie, l'esprit qui était sur Jean-Baptiste. Ces hommes et ces femmes-là, personne ne pourra les faire plier. Ils apporteront la parole de Dieu afin que l'ordre soit rétabli dans l'Église et dans les vies. Alors apparaîtra le Seigneur sur le mont des Oliviers. Oui, il n'y en a plus pour longtemps, mes amis. Il n'y en a plus pour longtemps. Et je voudrais, parce qu'il y a tellement de choses à dire, je voudrais vous dire qu'il y a tellement d'esprits religieux dans les églises. C'est quoi l'esprit religieux? Ben, Dieu a donné une parole à John Bevere. Il a dit, une personne qui manifeste un esprit religieux, c'est quelqu'un qui utilise ma parole pour accomplir sa propre volonté. C'est un manipulateur. C'est ça l'esprit religieux. Et John Bevere écrit encore une autre phrase, il dit « Une relation intime avec Dieu ne commencera pas avant que la crainte du Seigneur soit fermement ancrée dans nos cœurs. » Je vous le dis, c'est la montagne. On commence peut-être par la peur, mais ça se transforme en respect pour Dieu et en amour. Et dans le Talmud, il est écrit, tout dépend de Dieu, tout, excepté la crainte de Dieu. Et je voudrais terminer par un verset que je prends pour moi. Quel est donc le serviteur fidèle, prudent, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Nous devons tous mourir, frères et sœurs, tous. Chacun, ça sera différent. Chacun, ce sera d'une façon différente et à un moment différent. Si nous sommes en communion avec le Seigneur, ne vous inquiétez pas, c'est lui qui décide et qui choisit. Et même si ça devait être sous les balles des terroristes. Vous savez, j'ai eu une information vendredi après-midi. Il y a le groupe terroriste ISIS qui a pris une ville en Irak. C'était une ville chrétienne. Des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants ont été égorgés. Des chrétiens. C'est tout frais, on n'en parle pas dans les médias. On n'en parle pas parce que c'est chrétien. Alors que nous puissions réfléchir à tout ça. C'est sérieux. Il n'y en a plus pour longtemps. Moi, je ne veux pas faire peur. Mais franchement, regardez les informations. On n'est vraiment pas loin. Que le Seigneur vous bénisse.